Il est 5h30 en temps universel. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices. Bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 19 juin 2024. Drame à N'Djamena au Tchad, un incendie dans un dépôt militaire fait des morts et des blessés. Première visite officielle du président sénégalais en dehors du continent africain, Bassirou Diomaye Faye se rend en France. Au Kenya, le gouvernement retire la plupart des nouvelles taxes contestées de son projet de budget 2024-2025, une victoire pour les manifestants. Pour le rendez-vous économique, cap au Cameroun, où Puratos annonce une usine de transformation de cacao. En sport, il sera question des préparatifs des athlètes kényans pour les JO de Paris 2024. Nos dossiers du jour nous conduiront au Tchad, où les retraités exigent le versement intégral de leur pension. En attendant, voici le journal. L'incendie qui ravage un dépôt militaire de munitions dans la capitale tchadienne N'Djamena dans la nuit de mardi à ce mercredi a fait des morts et des blessés, a annoncé le président Mahamat Idriss Déby Itno sur sa page Facebook. Un incendie dans un dépôt de munitions a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés, a-t-il écrit, ajoutant « Une enquête sera ouverte pour déterminer les causes et situer les responsabilités ». De très nombreuses et très puissantes détonations ont résonné 2 heures durant, faisant trembler les bâtiments parfois jusqu'à 6 ou 7 kilomètres du sinistre. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France aujourd'hui pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il aura un entretien avec son homologue Emmanuel Macron, le point avec Dili Diko.
Le président Bassirou Diomaye Faye va prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à l'invitation de l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine. La rencontre avec plusieurs autres chefs d'État africains est prévue demain jeudi. Le chef de l'État sénégalais sera convié à un déjeuner par son homologue français. La France dit être le premier bailleur d'aide publique au développement au Sénégal. Monsieur Faye, 44 ans, a remporté la présidentielle de mars avec un discours souverainiste et la promesse de rupture avec l'ancien système. Il a affirmé son vœu de partenariat bénéfique. Son ancien mentor et premier ministre Ousmane Sonko s'est souvent signalé par ses propos contre l'emprise de la France. Monsieur Sonko a estimé aussi que la présence de bases étrangères au Sénégal est incompatible avec la souveraineté nationale. La France a commencé à réduire sa présence et ne devrait conserver qu'une centaine de soldats au Sénégal contre 350 actuellement. L'avenir du partenariat militaire figure parmi les sujets communs à Paris et Dakar avec la sécurité ou la réforme du franc CFA.
En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa doit prêter serment en tant que président lors d'une cérémonie à Pretoria aujourd'hui. Son parti, le Congrès national africain, est parvenu à un accord pour former un gouvernement de coalition. Monsieur Ramaphosa, 71 ans, prêtera serment à 11h locale au siège du gouvernement devant le président de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que les rois traditionnels des différentes ethnies du pays. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, la plupart des pays voisins, sont attendus, les représentants des partis politiques, des syndicats, de la société civile et les chefs religieux ayant également été conviés. Au Kenya, la plupart des projets contestés de nouvelles taxes, dont une TVA sur le pain et une taxe sur les voitures des particuliers, ont été retirés du projet du budget 2024-2025 avant son examen au Parlement. Les précisions de John Lindon.
Le projet de loi des finances a été amendé pour supprimer la TVA de 16% sur le pain, sur le transport du sucre, sur les services financiers, sur les opérations de change ainsi que la taxe sur les véhicules à moteur de 2,5%, a annoncé dans un communiqué la présidence kényane à l'issue d'une réunion des parlementaires de la majorité. Auparavant, plusieurs centaines de personnes ont manifesté près du Parlement pour demander le retrait des nouvelles taxes inscrites dans le projet du budget qui doit être voté au plus tard le 30 juin. Le gouvernement recule face à la pression de la rue. Grâce à la participation de la population, le peuple kényan a eu son mot à dire, s'est félicité le président William Ruto. Plusieurs autres taxes sur les paiements mobiles ou encore sur l'huile végétale ont également été supprimées du projet de budget.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Israël, Katz, a menacé hier le Hezbollah de destruction à l'issue d'une guerre totale. Les affrontements entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais s'intensifient alors qu'un émissaire américain se trouve dans la région pour tenter de faire baisser la tension. Le point avec Michel Joseph.
Nous sommes très proches du moment où nous déciderons de changer les règles du jeu contre le Hezbollah et le Liban. Dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit et le Liban sera touché durement, a affirmé hier le chef de la diplomatie israélienne dans un communiqué. Le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, a multiplié les attaques et menace de s'en prendre à Haïfa, le grand port du nord d'Israël. Amos Hochstein, envoyé spécial du président américain, se trouvait encore hier à Beyrouth. Il a affirmé que le conflit entre Israël et le Hezbollah a assez duré. Il a été reçu par le président du Parlement, Nabi Berri, et la veille par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à Jérusalem. Le Hezbollah a affirmé avoir mené plus de 2100 opérations militaires contre Israël depuis le 8 octobre. Les violences ont fait au moins 473 morts au Liban et côté israélien, au moins 15 soldats ont été tués.
En Haïti, le nombre de déplacés internes a augmenté de 60% depuis mars en raison de l'intensification de la violence des gangs. Ce nombre atteint près de 600 000 personnes selon l'Organisation mondiale pour les migrations. Les détails avec Rosine Munezero.
Selon les données de l'OIM publiées mardi, le pays compte 578 074 déplacés contre 362 551 début mars pour un total de plus de 10 millions d'habitants. Les chiffres que nous voyons aujourd'hui sont une conséquence directe d'années de violence qui ont atteint un nouveau pic en février avec leurs impacts humanitaires catastrophiques, a commenté Philippe Branchat, chef de l'organisation onusienne en Haïti. L'OIM a identifié près de 95 000 personnes qui ont quitté la capitale entre le 8 mars et 9 avril pour se rendre dans la province du Grand Sud, où les déplacés représentent désormais 10% de la population. Au niveau national, la majorité des quelques 600 000 déplacés, soit 80%, sont accueillis par des familles. L'OIM estime à près de 185 000 le nombre de déplacés, rien que dans la métropole de Port-au-Prince, soit une augmentation de 15% depuis début mars.
Un tribunal russe a condamné ce mercredi un soldat américain à plus de 3 ans d'emprisonnement pour vol et menace de mort, ont rapporté des agences de presse d'État. Gordon Blake a été condamné à une peine de 3 ans et 9 mois d'emprisonnement par un tribunal de l'extrême-orient russe, ont indiqué TASS et Sputnik. Le soldat américain avait été arrêté en Russie et était jugé depuis le 6 juin, accusé de menace de mort, d'avoir battu sa petite amie russe et de lui avoir volé 10 000 roubles, soit un peu plus de 100 euros. M. Blake, assisté d'interprète, avait plaidé non coupable de menace de mort, de meurtre aussi, mais particulièrement partiellement coupable de vol, tout en assurant qu'il n'a pas prémédité cet acte, d'après l'agence Interfax. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé tôt ce mercredi en Corée du Nord pour une visite exceptionnelle devant permettre de renforcer les liens en matière de défense entre les deux pays dotés de l'arme nucléaire dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine. D'après un document publié mardi par le Kremlin, la Russie envisage de signer un traité de partenariat stratégique avec la Corée du Nord. Moscou et Pyongyang sont alliés depuis la fin de la guerre de Corée entre 50 et 53, mais se sont davantage rapprochés depuis l'assaut russe en Ukraine débuté en 2022. Taïwan ne cédera pas face à la pression de la Chine, a déclaré aujourd'hui le président de l'île autonome, Lai Ching-te. L'annexion de Taïwan est une politique nationale de la République populaire de Chine, a observé M. Lai lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de son premier mois de mandat. En plus de la force militaire, le gouvernement chinois a de plus en plus recours à des méthodes de coercition non traditionnelles pour tenter de forcer Taïwan à se soumettre. Mais Taïwan ne cédera pas à la pression, a assuré M. Lai. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à l'actualité économique avec John Lindon pour la Minute Éco.
Au Cameroun, l'entreprise belge Puratos, spécialisée dans la fourniture d'ingrédients de boulangerie, annonce l'installation d'une usine de transformation locale de cacao dans la ville d'Ebolova, dans le sud. L'unité, qui envisage démarrer avec une capacité de 5000 tonnes par an, sera spécialisée dans la production de la pâte de cacao, préalable à la fabrication du chocolat. Le gouvernement kényan a retiré mardi de son projet de budget 2024-2025 la plupart des nouvelles taxes qu'il voulait instaurer, notamment sur le pain et les véhicules particuliers, source de mécontentement croissant dans la population. Un mouvement de contestation de ces taxes avait été lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le Parlement doit débattre du texte remanié dès ce mercredi en vue d'un vote avant le 30 juin. Le concepteur de semi-conducteurs Nvidia est devenu mardi la première capitalisation mondiale, dépassant Apple et Microsoft, un symbole de la fièvre de l'intelligence artificielle générative qui agite les marchés. La valorisation du groupe de Santa Clara en Californie est montée jusqu'à 3338 milliards de dollars avec un titre en hausse de 3,45%.
À présent, intéressons-nous aux nouvelles sportives avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec les préparatifs des JO Paris 2024.
Oui, vous le savez, les Africains, surtout ceux de l'Est du continent, sont très attendus dans les courses de fond et demi-fond lors des compétitions internationales. Et les Jeux Olympiques 2024 ne font pas l'exception, mais nous allons parler surtout des Kenyans qui se signalent dans une discipline où ils n'excellent pas souvent, le 100 mètres. Cela vous rappelle sans doute un nom, Ferdinand Omanyala, qui a établi lors des sélections olympiques kenyanes la meilleure performance de l'année au 100 mètres, suscitant beaucoup d'espoir. Elle aussi s'est bien illustré dans ce qu'elle sait faire. Faith Kipyegon a validé sa double qualification sur 1500 et 5000 mètres pour les Jeux de Paris. Suivez. Ambiance JO déjà dans ce stade de Nairobi lors des sélections olympiques kenyanes. Et les nombreux fans n'ont pas été déçus. Le sprinter Ferdinand Omanyala a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres en 9 secondes 79. L'athlète de 28 ans s'affiche comme un des favoris pour le sacre olympique sur la ligne droite.
J'envoie un message aux autres athlètes pour leur dire « Je suis à mon meilleur niveau et j'ai atteint mon pic au bon moment. » Juste avant les Jeux olympiques, ils devraient se préparer à un coup d'éclat.
Et il n'a pas tort. Avec ses 9 secondes 79, Omanyala efface du même coup le chrono du Jamaïcain Oblique Seville, qui a couru le 100 mètres en 9 secondes 82 et domine aussi le champion du monde américain Noah Lyles, qui a fait 9 secondes 85 le 2 juin à Kingston. Chez les dames, la superstar kenyane du demi-fond Faith Kipyegon a réalisé une course parfaite pour boucler les 1500 mètres dans un chrono remarquable de 3 minutes 53 secondes 98 centièmes.
Aux Jeux Olympiques, nous allons faire de notre mieux en tant qu'équipe et voir ce que nous allons ramener à la maison.
L'été dernier à Budapest, la double championne olympique qui visera deux médailles d'or au JO est devenue la première athlète à réaliser un doublé aux mondiaux sur 1500 et 5000 mètres.
En football, début ce mercredi des matchs de la deuxième journée de l'Euro 2024.
Après une entame réussie face à la Croatie 3-0, l'Espagne joue contre l'Italie dans le choc du jour. Les Italiens avaient aussi gagné 2-1 devant l'Albanie lors de leur première sortie, bien avant la Slovénie et la Serbie s'affrontent À suivre aussi Danemark-Angleterre. Hier, les derniers matchs de la première journée se sont disputés et la Turquie y est enfin arrivée. Pour la première fois de son histoire, elle a remporté son premier match dans un rendez-vous majeur en venant à bout d'une Géorgie sans complexe 3-1 à Dortmund. De son côté, le Portugal s'est imposé devant la République tchèque 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nani Talani, toujours en votre compagnie, pour finir plongeant dans notre section magazine. Au Tchad, les retraités civils et militaires, veuves et orphelins, sont très remontés et menacent de maintenir les sit-ins devant le siège de la Caisse nationale des retraités pour exiger le versement intégral de leurs arriérés de pension. Reportage d'André Kodmadingar de Pinjamina.
Les agents retraités du Tchad ne veulent plus continuer à croiser les bras et mourir à petit feu. Ils entendent faire feu de tout bois pour entrer dans leurs droits.
À chaque fois, il faut d'abord crier, il faut manifester, il faut faire de la violence sous toutes les formes avant d'entrer en position. Ce n'est pas logique. Nous avons des enfants à l'école. Nous habitons dans des maisons en location. Avec les cas de maladie, nous ne pouvons pas entrer. Il faut aller encore faire des créances ailleurs. Il faut faire des bons, vivre sur les bons jusqu'à la fin. Maintenant, tu rembourses tout ça. Mais vaut mieux nous appeler des maltraités que des retraités.
Par exemple, moi, il y a 6 487 000. Ça, là, si je trouve, je ne peux pas construire deux chambres comme ça que mes enfants dorment dedans.
Les retraitées veuves, quant à elles, affirment que la lutte qu'elles mènent est pour l'avenir. Elles accusent leurs responsables syndicaux de laxisme et décident de prendre leur destin en main tout en interpellant le président de la République.
Regardez, moi je boite. Actuellement, je suis aveugle. Ils ne veulent pas me donner mes arriérés de grâce. Toi, le journaliste, fais très attention. Sinon, à ton tour, ça serait pire. On est en train de lutter là, c'est pour vous les jeunes.
Aujourd'hui là, il n'a qu'à nous payer. Depuis le lundi, là, je meurs, j'ai tombé, j'ai vomi de sang. Si on ne donne pas là, je vais mourir dans cette maison aujourd'hui.
Nous sommes des commandeurs ou bien des mendiants. Ils te donnent 60 000, les 80 quelques là, pour les syndicats là. Et encore, quand ils te tendent l'argent, ils prennent un 10 000 ou bien 5 000. Tous ces argents là vont où? Dans d'autres pays, les gens veulent aller en retraite pour reposer. Mais au Tchad, si tu pars en retraite, ça c'est la mort. On s'adresse directement à Mamad Idriss Déby, qu'il nous écoute.
Ces pensionnaires ne font plus confiance en leurs responsables syndicaux et mettent sur pied un comité de crise dirigé par le colonel à la retraite, Jean Blagué. Il est considéré par ces derniers comme un leader charismatique, mais il n'est pas reconnu par les responsables de la direction générale de la Caisse nationale des retraités du Tchad, qui l'ont astreint plusieurs fois en justice, mais Jean Blagué ne baisse pas les bras.
C'est le droit des orphelins, des veuves, que leurs maris sont morts au terrain, leurs maris sont morts quelque part, que je demande leur droit. On n'a pas tapé quelqu'un, on a contingé l'argent. On demande au gouvernement. C'est la force qui le bloque. C'est ça que les gens sont dépassés, mais ils sont venus devant la portail pour pleurer. Que le gouvernement écoute leurs pleurs. Ils donnent leurs droits. Nous sommes des gens fatigués. Les gens veulent nous tuer affamés. Jusqu'à mercredi, là, on va dormir là. Parce que nous, on n'a pas de problème avec l'État. On veut nos droits. Il faut aussi, le gouvernement n'a pas de l'argent, il faut qu'il nous donne des lits. C'est ce qu'ils ont envie. Mais personne ne peut nous répondre. On est dépassés.
Selon des sources proches de la direction générale de la Caisse nationale de retraités du Tchad, le paiement des arriérés de pension ne relève pas de la compétence des responsables de la dite institution, mais plutôt du ministère des Finances. Toutefois, des démarches sont en cours pour calmer la situation. Les retraités peuvent même espérer le paiement de leur pension le mois prochain, ce qui correspondrait selon les mêmes sources au coupon du deuxième trimestre de l'année en cours. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM. Au Gabon, les nouvelles autorités sont au front pour restaurer l'ordre dans la capitale Libreville. Depuis près de 6 mois, les équipes municipales sont engagées dans une opération de destruction des installations anarchiques dans la ville. Mais cette campagne d'hygiène publique peine à atteindre les résultats escomptés. Voici le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
À Libreville, le commerce illégal investit les rues et les espaces publics. Il s'impose même comme un fait accompli contre lequel aucune solution n'est possible.
Pourtant, sur instruction du délégué spécial de la ville, des vendeurs à la sauvette comme en baie ont été priés d'intégrer des marchés municipaux depuis le début de l'opération en cours.
Toutes les places sont occupées par quelqu'un. Bon, qu'ils nous montrent, qu'ils viennent nous prendre tout ce qu'ils vendent sur le trottoir en disant que bon, toi viens, tu travailleras ici désormais. Toi viens, tu auras cette place désormais. Mais ce n'est pas le cas. Je suis désolé, ce n'est pas le cas.
Dans ce désordre urbain qui persiste, certains commerçants informels reconnaissent le bien fondé de l'opération menée par la mairie de Libreville. Près devant la friperie sur le trottoir de l'ancienne gare routière.
On ne doit pas exercer anarchiquement. Donc s'il faut mettre de l'ordre, l'ordre concerne tout le monde, et les expatriés et les jeunes Gabonais. Donc c'est à l'État gabonais de prendre les responsabilités en ce qui concerne les jeunes commerçants gabonais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on nous encourage dans ça. Tout le monde ne veut plus aller à la fonction publique, comme le dit le président de la transition, que la fonction publique ne peut pas regorger tout le monde.
Les dépôts sauvages de déchets ménagers et industriels ou encore l'abandon de véhicules constituent le nœud gordien de l'opération. Pour Sosten, agent de sécurité, l'hôtel de ville doit explorer d'autres solutions susceptibles de maintenir l'ordre urbain partout.
Ce que je peux dire, c'est que le maire actuel, il est un militaire, doit former des brigades environnementales qui doivent travailler en conjointement avec le ministère de l'Environnement pour vérifier et surveiller. À la mairie, il existe une direction générale de l'environnement. Moi, je ne sais pas ce que cette direction fait.
Sur la liste des points noirs de la ville, quelques quartiers changent néanmoins de visage. C'est le cas de Montagne Sainte, récemment aménagée et dotée d'une voie de contournement, de parcs et de jardins publics. De l'avis d'Abel, un habitant du quartier, cet investissement est à préserver par ses premiers bénéficiaires.
Il ne suffit pas seulement de faire cela. Ça dépend maintenant du maire. Parce que c'est le maire qui est le garant de la ville. C'est le maire qui est sachet arranger cette voie-là, arranger et assainir avec les membres du quartier, les dirigeants du quartier, les deux chefs du quartier, s'associer avec le maire, voir comment on peut faire maintenant pour assainir notre endroit.
Selon les urbanistes, la mauvaise gestion des espaces publics dans une ville comme Libreville favorise le commerce de la rue et les installations anarchiques. Ceci expliquerait pourquoi l'hôtel de ville est malmené sur son propre terrain. Ismaël Bianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président américain Joe Biden a accueilli en début de semaine Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, moins d'un mois avant le sommet de l'Alliance à Washington. Ils ont évoqué la manière d'assurer un soutien à l'Ukraine sur le long terme. Le reportage d'Anita Powell, le récit est de Rosine Munezero.
Le secrétaire général Jens Stoltenberg est venu à Washington pour préparer le sommet du mois prochain qui va examiner comment l'Alliance Atlantique pourra soutenir la lutte de l'Ukraine contre l'invasion russe. Le président Joe Biden a fait l'éloge de l'Alliance et a déclaré qu'un nombre record de ses membres ont promis de respecter l'engagement de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Le président Joe Biden.
L'OTAN a été fondée il y a 75 ans et je pense que les leçons que nous avons tirés de cette époque et de notre union pour défendre et dissuader les agressions ont été déterminantes. Sous votre direction, l'OTAN est devenue plus grande, plus forte et plus unie qu'elle ne l'a jamais été.
Auparavant, M. Stoltenberg a déclaré que les alliés ont apporté un soutien sans précédent à l'Ukraine et estime que cela va coûter au moins 45 milliards de dollars par an à l'avenir. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN.
Lors du prochain sommet de l'OTAN, je m'attends à ce que les autres dirigeants acceptent que l'OTAN dirige la coordination et la fourniture de l'assistance et de la formation en matière de sécurité pour l'Ukraine. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai proposé un engagement financier à long terme. Plus notre soutien à long terme sera crédible, plus vite Moscou comprendra que nous n'allons pas baisser la garde et plus vite cette guerre prendra fin. Cela peut sembler paradoxal, mais la voie de la paix passe par davantage d'armes pour l'Ukraine.
Les analystes estiment que ces discussions vont définir l'ordre du jour au prochain sommet. Dan Hamilton est chercheur non résident à l'institution Brookings.
Les principales questions sont toujours les suivantes. Que dit l'Alliance à l'Ukraine après les promesses de soutien de ces dernières semaines? Quelle est la nature de la relation OTAN-Ukraine à l'avenir? L'OTAN prend le relais des États-Unis pour l'assistance militaire et la coordination de la formation militaire pour l'Ukraine. C'est une étape importante qui est en train de se dérouler.
La semaine dernière, le président ukrainien a fait l'éloge d'un accord de sécurité de 10 ans avec les États-Unis, déclarant qu'il ouvrait la voie à la chose que l'Ukraine souhaite le plus, devenir membre de l'OTAN. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.
La question de l'OTAN est couverte par les textes de l'accord. Il stipule que l'Amérique soutient l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité est un pont vers l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Ce processus pourrait être long selon M. Hamilton, qui note que d'autres pays ont pris également des engagements bilatéraux envers l'Ukraine. Dan Hamilton, dans l'institution Brookings.
Certains d'entre eux s'engagent, vous savez, à assurer une défense mutuelle. D'autres s'engagent à fournir un soutien militaire sur une période plus longue. Les Ukrainiens peuvent donc compter sur ce soutien.
La façon dont la guerre pourrait se terminer est également dans la ligne de mire de l'OTAN, a ajouté M. Hamilton, tout comme la prise de conscience croissante de l'existence de menaces au-delà de l'Atlantique Nord, comme en témoignent les projets des dirigeants du Japon, de l'Australie, de la Corée du Sud et de la Nouvelle-Zélande de participer au sommet qui débute le 9 juillet ici même à Washington.
En sport, la finale NBA a donné son verdict. Les Boston Celtics, qui ont dominé la saison, ont eu raison de Dallas Mavericks, 106 à 88, lors du match 5 de la finale, pour remporter la série 4-1. Les Celtics décrochent ainsi un 18e titre record d'avantage avec Yakuba Ouédraogo.
Toute la ville de Boston en vert aux couleurs des Celtics, nouveau champion NBA, avec des fans en liesse.
Je suis au sommet du monde. Je veux dire que je les ai vus gagner en 2008 alors que je n'avais que 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je vis dans la ville où ils gagnent. Ce qui s'est passé le week-end dernier n'est pas mon problème. Les Celtics sont champions de NBA.
Je nous vois comme une communauté de Boston. Nous sommes venus ici pour faire la fête ensemble. Nous avons sauté dans les rues et après la victoire, nous nous sommes serrés les uns contre les autres.
Ces fans des Celtics se souviendront sans doute de cette fin de match où la tête dans les mains, le sourire béat, les larmes aux yeux, Jason Tatum a savouré les derniers instants d'une rencontre où il a planté 31 points pour entrer dans l'histoire de la prestigieuse ligue.
Ce sera une soirée dont je me souviendrai toute ma vie parce qu'il s'agit du match, de la célébration, de ces moments. Vous savez, ces deux dernières années, nous avons subi des défaites difficiles à domicile lors des séries éliminatoires. Nous avons perdu le championnat NBA à domicile devant nos supporters. Championship at home in front of our
fans. Aux côtés de Tatum, Jaylen Brown, énorme, a été nommé MVP de la finale.
Je n'arrive même pas à exprimer mes émotions. Je suis simplement béni et reconnaissant. C'était un effort collectif total. Nous avons une grande équipe. Mes coéquipiers ont été formidables. Cela aurait pu être Jason. Jason, je ne parlerai jamais assez de son altruisme.
Pour en arriver là, Boston a pris le risque de confier son équipe en 2022 au jeune et inconnu Joe Mazzulla, qui fêtera ses 36 ans le 30 juin, un obsessionnel théoricien du jeu. Le pari est gagné. En deux saisons, le jeune coach américain est passé d'inconnu complet à champion NBA. Le coach Mazzulla reste humble.
Lorsque je suis arrivé ici, le coaching de Brad, le personnel qu'il avait, les fondations qu'ils ont construites avec ces gars lorsqu'ils étaient jeunes sont l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je pense que c'est l'une des premières choses qui m'est arrivée à l'esprit. Ce n'est pas parce que nous avons gagné que ce que les gens ont fait avant nous n'est pas important.
Grâce à ce 18e sacre de leur histoire, les Celtics devancent désormais leurs rivaux de toujours, les Los Angeles Lakers, et leurs 17 titres pour reprendre le leadership des grandes franchises NBA.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Nanit Talani. À la réalisation, Firmin Max Koyawida. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, X. Nous vous souhaitons une excellente journée et vous donnons rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité. À bientôt, au revoir.